IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val-d'Oise, avec sa fréquence en FM sur 98.00, Web Radio 98.fr, DAB+ pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci à vous toutes et tous d'être avec nous en direct ce matin jusqu'à 11h dans ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Aujourd'hui, mardi 2 décembre, nous partons à la rencontre de plusieurs artisans et artistes dont les créations éveillent l'essence, transforment le quotidien et célèbrent le savoir-faire. Du savon artisanal aux jouets en bois, en passant par la peinture, la décoration en liège et les spectacles multimédia, chacun d'eux insuffle une âme unique à la matière. Comment naissent ces objets et œuvres qui nous entourent et nous émerveillent ? Pour en parler, dans le studio d'IDFM Radio, beaucoup d'invités ce matin. Sandra Da Silva, fondatrice de Valoris, une entreprise de jouets éco-responsables. Valérie Ferreira, fondatrice de la marque Casaval, qui crée et fabrique des articles de mode et déco en tissu de liège. Miguel Prieto Verastegui, artiste peintre. Cyril Alvaert, fondateur de la savonnerie SAO Savon Sans Superflu. Et Damien Fontaine, metteur en scène et compositeur, un artiste qui sublime les monuments patrimoniaux en mêlant projection de lumière et scénographie sonore. Damien qui est accompagné par Olivia Zera, directrice du pôle communication événementielle, fêtes et cérémonies et associations pour la mairie d'Enghien-les-Bains.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
À quelques jours des fêtes de Noël, bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce voyage au cœur de la création où chaque détail compte plus que jamais. Juste avant de vous donner la parole, retrouvons dès à présent notre chronique culinaire avec une nouvelle recette concoctée par Marine Roland, alias Mimi dans ta cuisine, et toujours débordante d'idées. Ce matin, découvrons comment préparer des mini brioches fourrées au fromage et au confit d'oignons. Bonjour Marine.
Bonjour et bienvenue dans Mimi dans ta cuisine. En décembre, c'est le mois des fêtes, des apéros qui durent et des bouchées qui régalent. Aujourd'hui, je vous propose une recette à tomber, des mini brioches fourrées au fromage fondant et au confit d'oignon. C'est moelleux, un cœur coulant, sucré salé comme on adore et surtout, ça se mange avec les doigts entre deux éclats de rire. Vous avez deux options pour la pâte, soit la version express avec une pâte à brioche du commerce, soit une version maison pour les plus motivés du week-end. Il vous faut 250 g de farine, un sachet de levure boulangère, 125 ml de lait tiède, un œuf, 40 g de beurre mou, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel. On pétrit tout ça dans un robot ou à la main et on laisse pousser une heure et la pâte, elle est prête à être utilisée. Mais si vous êtes en mode rapide, pas de souci, vous pouvez utiliser une pâte feuilletée avec une version plus croustillante. Ça sera un peu différent, mais c'est tout aussi bon. Et pour la garniture, il vous faut 100 g de fromage à fondre, raclette, reblochon, comté, mozzarella, comme vous voulez, 2 cuillères à soupe de confit d'oignon, un jaune d'œuf pour la dorure. On découpe la pâte en petits carrés ou en cercles. Au centre, on met un dé de fromage, un peu de confit d'oignon, on referme bien pour former une petite boule, on dépose sur une plaque recouverte de papier cuisson, on dore avec un jaune d'œuf et on enfourne 15 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que la brioche soit bien dorée et gonflée. À la sortie du four, le fromage a fondu, l'odeur est irrésistible et ces petites bouchées vont faire un carton. À servir tiède, à picorer à l'apéro ou pour un brunch festif, c'est un succès garanti. Et si vous testez la recette, je serai évidemment ravie de voir votre version. Envoyez-moi une photo sur mes réseaux sociaux Mimi Cuisine, ça me fera toujours super plaisir. Et on se retrouve le mois prochain dans Mimi dans ta cuisine pour une nouvelle recette de saison.
Merci Marine. Prochain rendez-vous en janvier 2026 avec toujours des belles recettes.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons mes invités, artisanes et artisans pour la plupart. Et tout de suite, je vous donne la parole, Sandra Da Silva. Alors Sandra, peut-être quelques mots sur votre parcours.
Oui, bonjour Jacqueline. Alors moi je viens de la plasturgie. Pendant 20 ans, j'ai vendu du plastique à l'international. Et puis un jour, j'ai eu un déclic, je peux dire avec la naissance de mes enfants. Et j'ai voulu créer quelque chose qui ait du sens. J'ai voulu redonner de l'éthique dans les jouets que l'on offre à nos enfants. Et c'est comme ça qu'est née mon entreprise Valoris.
C'est ça, donc en fait, ça fait 20 ans hein, que vous avez fondé Valoris, donc peut-être aussi, vous parlez de vos enfants, mais peut-être un propre désir lié à votre enfance.
Oui, j'ai toujours aimé le jouet, mais c'est vraiment, enfin, l'objectif a vraiment été celui de stopper ce fléau. Vous voyez, nous sommes à quelques jours de Noël, et sur cette période de l'année, vous avez 1 million de jouets qui sont vendus par jour, et sur ce 1 million, 75% sont en plastique.
Ah ouais.
Même si je vais à contre-courant, j'ai vraiment cette volonté d'essayer de bouger les lignes et de contribuer à cet impact. Oui. Environnemental.
D'environnement. Et depuis 20 ans que vous avez créé votre entreprise, vous avez vu les choses évoluer de quelle façon?
Alors, petite précision, je n'ai pas créé mon entreprise depuis 20 ans. C'est, j'ai vendu pendant 20 ans du plastique à l'international. Mon entreprise, elle a 4 ans.
4 ans, d'accord. Désolée.
Alors, effectivement, il y a toujours le contre-courant du plastique. Ça, c'est une évidence. Mais le jouet durable commence à avoir sa place. En même temps que le concept du consommer mieux qui rentre de plus en plus dans les mœurs.
C'est vrai que les gens sont de plus en plus concernés. Ce nom de Valoris, pourquoi ?
Les valeurs, tout simplement.
Ah, très bien, parce que je me suis demandé s'il y avait une petite allusion à la ville de Valoris par un jeu de mots. Non,
pas du tout.
Donc, une vraie passion, vous êtes basée à Montmagny ?
Oui, tout à fait, à Pépinière 14K.
Et donc, on peut dire que le bois est un matériau vivant. Comment vous concevez ces jouets qui allient sécurité, durabilité et magie pour les enfants?
Alors, mes jouets sont en liège, avec des accessoires en bois, mais ce sont des jouets en liège. Des jouets qui sont à la fois... Alors, je travaille avec des crèches, avec des musées, des châteaux, donc ce sont et des domaines viticoles aussi. Donc, ce sont des jouets qui connectent vraiment l'enfant à la nature et qui ont toujours ce côté ludique, pédagogique qui sont recherchés. L'objectif, c'est de vraiment placer l'enfant au cœur de la conception même, dès le démarrage, pour lui et pour son avenir aussi.
C'est ça, votre focus, c'est vraiment l'enfant et pouvoir lui apporter le même plaisir de n'importe quel jouet, mais dans un matériau noble.
Noble, puisque on est convaincu vraiment, j'ai vraiment cette conviction que le jouet peut être moteur du changement, parce que c'est en sensibilisant les enfants dès leur plus jeune âge au respect de la nature à travers le jouet qu'on peut en faire plus tard des consommateurs plus responsables.
Alors récemment, vous avez été élue lauréate finaliste départementale au concours Créatrice d'avenir. Le jury s'est réuni et quel est le résultat des courses?
Eh bien, je suis passée à la région. Donc,
très
je
bien,
suis devenue
bravo.
Finaliste régionale et on est le 2 décembre et la grande finale sera le 9, la semaine prochaine. Donc, on verra.
On va vous suivre de près. Ce genre de reconnaissance est important.
Oui, puisque c'est me dire que ce chemin parcouru souvent seul et face justement à une société de consommation qui privilégie quand même le volume et le plastique, je fais pas tout ça pour rien.
Alors, ce qui est formidable, c'est que bon, aujourd'hui, vous êtes tous dans la création et que. Quand j'invite mes invités, je ne sais pas forcément quel est vraiment l'objet de leur activité. Et à côté de vous, il y a Valérie aussi qui travaille le liège. Donc voilà, j'adore ce clin d'œil. Sandra, est-ce qu'il y a un objet que vous auriez aimé vraiment, que vous auriez adoré créer ou posséder quand vous étiez enfant?
Alors, question difficile. Oui, comme tout enfant, on a toujours nos rêves, etc. Mais non, papa.
Non, vous n'y avez pas forcément réfléchi.
Non, pas forcément.
Et si, à l'inverse, vous aviez une carte blanche pour créer sans limite, à quoi ressemblerait votre projet idéal?
Alors là, aujourd'hui, je vous avoue, je réfléchis déjà sur ma prochaine collection.
Oui.
Donc, j'ai des idées plein la tête. Je veux, comme je le disais tout à l'heure, à la fois être créer quelque chose qui soit en lien et en respect avec la nature, mais qui soit aussi ludique et pédagogique pour l'enfant, tout en donnant envie de l'acheter. Donc ce sont plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, pour l'instant, ce sont encore des projets. J'y réfléchis. J'espère 2027, elle sera lancée.
Oui, parce que finalement, ça doit pas être évident de toujours arriver à se renouveler dans les jouets pour enfants.
Alors après, moi, je ne suis pas dans une optique de consommation à tout prix.
Oui.
C'est plus dans la durée, plus dans la valeur, le sens, la quête de sens. Donc une collection tous les ans ou tous les 6 mois, comme le font la plupart des fabricants, moi je
oui, vous ne courez pas après.
Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas une surconso. Mais effectivement, tous les 2 ans, pouvoir renouveler du moins le design de certaines pièces, c'est important pour créer du dynamisme
bien
à
sûr.
La marque.
Donc aujourd'hui, vos besoins, c'est d'avoir plus de visibilité. Qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message à l'antenne?
Alors aujourd'hui, je suis en pleine recherche RH. Donc je recherche des stagiaires pour m'aider à booster la partie commerciale. Puisqu'aujourd'hui, notre focus, ce sont les boutiques de musées, de châteaux. Mais on s'oriente de plus en plus sur les crèches, sur les domaines viticoles. Donc il me faut des personnes pour m'aider à atteindre tous ces secteurs d'activité. Et puis en même temps pouvoir développer l'international, puisqu'aujourd'hui je réponds à des opportunités entrantes et j'ai besoin de développer l'export vraiment. Aussi une personne pour la communication, puisque c'est essentiel, mais n'ayant pas le temps, je ne le fais pas.
Ça prend beaucoup de temps, oui.
Donc j'aurais besoin aussi d'un jeune qui puisse m'aider là-dessus. Et puis bien sûr, comme toute entreprise, de la pérennité financière, puisque si je veux mener à bien ma mission, il faut aussi de la stabilité financière, donc je suis ouverte. Et d'ailleurs, j'ai des fonds qui s'intéressent, j'ai des levées de fonds aussi. Enfin voilà,
vous avez beaucoup de choses qui sont en cours.
C'est ça, tout à fait.
Donc c'est bien.
C'est bien.
Ah, oui. Vous êtes après 4 ans d'activité, c'est une bonne, c'est une belle croissance.
C'est une belle croissance. Et puis voilà, je commence à avoir des reconnaissances à droite à gauche. Je vais faire le marché de L'Oréal, qui est quelque chose d'important. Donc je suis très contente pour ça. Petit à petit, je commence à avoir de la reconnaissance par rapport à ce que je fais. Même si parfois, évidemment, ce n'est pas évident.
Bien
déjà,
sûr,
le liège, c'est un matériau qui est très nouveau, innovant. Et quand c'est trop innovant, ça laisse des questionnements, contrairement à d'autres qui sont plus communs, on va dire.
Oui, plus communs. Je crois que vous voulez trouver des relais commerciaux, des opportunités, être recommandé dans des milieux hôteliers, les comités d'entreprise.
Voilà, alors
c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un stagiaire pour vous, voilà.
Tout à fait, puisque ce sont des domaines que je ne maîtrise absolument pas, mais je sais qu'il y a de la demande. Et donc, effectivement, il me faudrait des personnes qui puissent être à fond dans ces secteurs-là pour trouver les opportunités.
Comment on peut acheter vos jouets?
Alors le je ne vends que aux professionnels, mais depuis quelques semaines je suis sur Cultura. Donc on peut trouver les jouets Elo ELOU sur Cultura quand on est particulier.
Donc ELOU, Elo.
Voilà.
Et très bien,
tout
très
à
bien.
Fait.
Merci infiniment Sandra pour cette belle exploration de votre passion et puis félicitations pour cette d'avoir été lauréat départemental et puis maintenant régional. Rappelez-nous quand a lieu le jury.
Alors le grand jury final est le 9 décembre à Paris.
Bon ben on vous souhaite plein de bonnes choses, on croise les doigts pour vous.
Merci infiniment.
Restez avec nous, on revient juste avec cette pause Stromae qui nous chante Formidable.
Formidable. formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas. Hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Nous voilà de retour et je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette émission en compagnie de Sandra Da Silva, fondatrice de Valoris, Miguel Prieto Verastegui, artiste peintre, Valérie Ferreira, entrepreneur individuel, artisan, qui fondatrice de la marque Casaval, qui crée et fabrique des articles de mode et de déco en tissu de liège, Cyril Alvaert, fondateur de la savonnerie SAO, Damien Fontaine, artiste dans le multimédia, et Olivia Zera, directrice de la communication pour la ville d'Anguin. Miguel Prieto Verastegui, merci d'être avec nous ce matin. Donc vous êtes artiste franco-colombien, né à Bogota. Aujourd'hui, maître de la couleur, une figure emblématique de l'art contemporain par une approche unique de l'abstraction lyrique et une utilisation audacieuse de la couleur. Et puis surtout, j'ai noté que vous étiez autodidacte, Miguel. C'est bien
oui,
ça?
Oui, bonjour Jacqueline, merci de m'accueillir. Et je suis ravi d'être parmi vous et pouvoir présenter mon travail. Effectivement, je suis autodidacte. Mon père, il faisait un peu la peinture. Mon demi-frère, caricaturiste amateur, et en Colombie. Et je suis franco-colombien et mon atelier se trouve à Paris, dans le 11e arrondissement.
Très bien. Alors, vous avez une double culture, hein, franco-colombienne. La couleur, c'est vraiment votre langage?
Oui, tout à fait. Mon spécialité, c'est la maîtrise de la couleur et surtout l'harmonie, comme on disait Proust. La beauté des couleurs n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Et je pars de ces principes et de parfois pas me poser des limites au moment de composer mes œuvres, de mélanger différentes couleurs et d'une manière naturelle. Je mélange aussi souvent avec de l'encre de Chine et des encres à l'acrylique. Je travaille également l'acrylique et au début, j'étais plus centré sur l'huile. Mais je voyage souvent, il faut savoir que je voyage souvent en voyage. Je trouve, à part mon atelier, j'essaye d'aller à la Côte d'Azur ou en Camargue ou en Bourgogne et où je des lieux d'inspiration, je trouve mon inspiration dans le paysage, dans le paysage urbain, et la mer, comment
c'est ça, vous avez besoin d'un environnement avec de la lumière naturelle.
Oui, tout à fait. Justement, dans mon atelier, je suis dans un atelier au dernier étage et j'ai une terrasse qui me permet d'avoir vraiment la lumière naturelle.
Des œuvres où on peut dire que l'émotion est très présente?
Oui, tout à fait. Pour construire mes œuvres, j'ai besoin de, comme tu dis, d'avoir un environnement favorable, parce que je travaille plutôt, je suis centré sur l'abstraction lyrique. Et donc, de ce fait, et dans l'abstraction lyrique, il y a beaucoup de gestes, d'émotions, de lumières, et chacun peut y retrouver des souvenirs ou des passions ou de différentes émotions liées aussi avec la musique, parce que je suis aussi, j'aime beaucoup la danse et la musique classique qui m'inspire pour travailler.
Alors, les 21, 22 et 23 novembre a eu lieu le salon Noël avant l'heure, couvert par IDFM Radio d'ailleurs, et le pays invité était la Colombie.
Oui, tout à fait, j'ai eu le plaisir.
C'était une coïncidence ou c'était un petit peu téléguidé?
C'était une coïncidence, mais quand j'ai appris que mon pays d'origine était l'invité principal, l'invité d'honneur, je me suis dit, il faut absolument que je sois dans ces salons, et surtout parce que je trouve que, comme à l'époque, les artistes, ils étaient à Paris, mais ils allaient en dehors de Paris, à la campagne à l'époque. Et moi, je suis aussi dans cette dynamique d'explorer des villes à côté de Paris. Et comme par exemple, récemment, le 3 octobre, j'ai fait une expo conséquente, une expo personnelle. J'ai exposé 45 toiles dans la ville d'hier, dans le 91. Et c'était super comme exposition, puisque la ville m'a mis en place une belle salle. Je vous rappelle que c'est la ville de Gustave Caillebotte. Et c'est une ville magnifique dans laquelle je puis faire une exposition personnelle, surtout, on m'a facilité de faire un atelier avec des lycéens des quartiers, qui était, pour moi, ça a été une belle, très, très belle expérience et que j'aimerais bien dupliquer dans l'avenir.
Oui, on vous souhaite de pouvoir refaire ces expériences, parce que c'est vrai que accueillir des lycéens, enfin des jeunes d'établissements scolaires, c'est toujours assez passionnant. Alors Miguel, vos œuvres sont aussi exposées en ce moment au Concept Store de la Chambre des métiers de l'artisanat à Enghien-les-Bains. Moi, j'ai eu l'occasion de vous y rencontrer. J'ai d'ailleurs vu des choses sublimes, vos toiles, mais aussi tous les objets de ces artisans qui exposent. Je vous pose la même question qu'à Sandra. Professionnellement, quels sont vos besoins?
Actuellement, j'ai toujours besoin de trouver l'inspiration. D'abord, les nerfs de la guerre, pour moi, c'est trouver l'inspiration, parce que je suis pas forcément je suis pas un artiste figuratif. Et donc, je peins pas sur photo, par exemple. Pour moi, c'est important d'être sur les lieux, sentir l'expérience. Et pour moi, mes besoins, c'est toujours en quête de lumière, en quête d'inspiration. Ça, c'est le premier point artistique. Ensuite, comme tout chef d'entreprise, parce que je vous rappelle que moi, je suis aussi un chef d'entreprise, en étant artiste peintre, on doit développer à l'international, on doit faire de la communication, comme dit Sandra, on a besoin de communiquer, on a besoin de trouver des partenaires, et moi, j'ai besoin de trouver aussi des lieux, des expos, différents. J'ai exposé dans des restaurants à Paris, notamment dans un restaurant qui s'appelle Chez Françoise, et aux Invalides. Et donc, là, en ce moment, pour 2026, j'attends une proposition d'une galerie d'ailleurs qui s'appelle De Muisca, et qui est une galerie avec un galeriste colombien qui, sur moi, je vais aller à l'international à New York, à Berlin et à Dubaï pour 2026. Et je suis en quête aussi de continuer cette transmission vis-à-vis des jeunes et moins jeunes, hein, parce que justement dans la ville d'hier, il y avait les personnes, il y avait des personnes qui me disaient pourquoi vous savez pas organiser pour les adultes, ça les intéressait.
Oui, c'est ça.
Donc,
ils se sont sentis frustrés.
Oui, d'une part, et puis, c'est vrai que, l'effet de transmettre cette transmission vis-à-vis des jeunes, et puis je pars du principe que tout le monde peut être artiste.
Oui.
Le plus compliqué, c'est de se retrouver devant une toile blanche, d'avoir un pinceau et d'avoir la peinture.
L'inspiration.
Et commencer.
C'est
je pense que c'est capital pour les auditeurs et pour les villes et pour les mairies et pour les la région de continuer ce travail culturel dans les lycées que je trouve et surtout d'avoir un budget conséquent et de continuer avec
bien sûr,
un budget pour toutes ces activités.
Alors, je rappelle que votre actualité, c'est votre participation au Salon des artistes français, Art Capital au Grand Palais du 13 au 15 février. Donc, c'est pas rien.
Oui, tout à fait. En fait, pour rien vous cacher, j'attends la réponse.
J'attends la réponse.
Normalement, on est censé chaque année de se présenter. Et moi, par le passé, j'ai participé au Salon d'automne 3 fois. Et j'ai appris récemment que j'étais le premier, il me semble, on m'a dit, j'étais le premier Colombien à avoir participé au Salon d'automne qui se tient depuis presque un siècle à Paris. Et là, j'attends dans la partie Salon d'artistes français au Grand Palais qui se tient. Donc, par le passé, j'ai déjà participé au Salon des artistes indépendants qui est dans le même Art Capital.
Merci infiniment, cher Miguel. Donc, comme Sandra, on va attendre le résultat. On va espérer pour vous que vous soyez éligible à ce salon. Merci pour cette vision universaliste que vous nous offrez à travers vos œuvres. Et puis, beaucoup de succès pour vos prochaines expositions.
Merci beaucoup, Jacqueline.
On vous laisse profiter de quelques instants de musique avec Elsa, cette fois, et son fameux titre « T'en vas pas ». À tout de suite.
Quand tout s'aime, on s'en va pas.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, beaucoup d'invités dans le studio en compagnie de Sandra Da Silva, fondatrice de Valoris et je rappelle lauréate de Créatrice d'Avenir. Miguel Prieto Verastegui, artiste peintre, Valérie Ferreira, artisan, fondatrice de la marque artisane, fondatrice de la marque Casaval qui crée et fabrique des articles de mode et de déco en tissu de liège. Cyril Alouart, je l'ai bien dit là cette fois-ci, fondateur de la savonnerie SAO. Damien Fontaine, artiste international en multimédia, et Olivia Zera, directrice de la communication pour la ville d'Enghien-les-Bains. Alors Valérie Ferreira, focus sur vous à présent. Vous avez donc fondé la marque Casaval qui crée et fabrique ses articles de mode et de décoration en tissu de liège. J'ai vu vos œuvres dans cette boutique, le Concept Store, et voilà, moi j'ai été bluffée par la qualité et puis la délicatesse des objets que vous fabriquez.
Merci Jacqueline, merci pour le compliment et merci de m'accueillir aujourd'hui.
Je vous en prie. Donc comment cette passion vous est-elle venue? Parce que je pense que c'est une passion.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je crée des articles mode et déco en liège, donc la technique d'artisanat, c'est essentiellement la couture.
Oui.
On va dire l'exception pour ma marque, ça va être la matière que j'utilise, qui est un matériau assez nouveau, enfin, innovant, très peu connu encore,
oui,
en France, mais utilisé au Portugal depuis plus de 20 ans dans le domaine de la mode. Donc qui est le tissu de liège, donc une alternative végétale au cuir, aussi résistant que du cuir, mais avec d'autres avantages comme la légèreté, l'imperméabilité. Et donc, en fait, je fais de la couture depuis que je suis toute petite.
C'est ça, vous voilà. Avez toujours fait...
J'ai toujours fait de la couture, ma grand-mère, voilà. J'ai une carrière professionnelle avant la création de Casaval, puisque j'ai travaillé pendant 26 ans dans le domaine de l'énergie. J'étais ingénieur d'affaires chez des constructeurs de matériel électrique, donc des grosses multinationales.
Donc comme Sandra, puis, un virage à 360 voilà. degrés.
Est-ce l'effet Covid? Est-ce l'âge? J'ai eu envie de transformer ma passion en activité
professionnelle,
que ça soit plus uniquement un loisir. Et du coup, il y a alors 4 ans et demi, j'ai décidé
de vous lancer,
de me lancer. J'ai profité d'une opportunité pour quitter mon emploi précédent et le temps de préparer tout ça. J'ai ouvert officiellement Casaval il y a 3 ans et demi.
Et aujourd'hui, après 4 ans, enfin 3 ans et demi, vous êtes contente du résultat?
Oui, bon, il faut encore faire prospérer.
C'est pas évident.
L'artisanat, c'est effectivement pas évident parce qu'on doit tout gérer en fait. On est créateur, fabricant, directeur de com, comptable.
C'est ça, oui.
Donc il faut
réussir
à gérer tout. Il faut apprendre petit à petit à déléguer. Et puis, mais effectivement, ça, petit à petit, je gravis les marches et. J'ai eu aussi de belles opportunités qui m'a permis de pouvoir avancer dans ce sens grâce à la Chambre des métiers, effectivement,
oui.
La boutique d'Enghien où je suis depuis le début. Et puis des participations à des salons d'envergure comme Noël avant l'heure qu'on a eu. Bon, dernière édition, il y a un peu moins d'une semaine.
Oui.
C'est la troisième fois que je le faisais. Et puis, c'est aussi cette année, c'était la deuxième année à laquelle je participais au salon du Made in France.
Ah, très bien. Oui, oui. Et donc, ça s'est bien passé?
Des belles rencontres, effectivement, des rencontres qui seront nécessaires pour faire prospérer Casaval, puisque ça permet de prendre des contacts plus vers le B2B.
Et... Oui. Vous étiez aussi dans le cadre de la CMA?
Alors, c'était l'année dernière que je faisais partie des deux artisans sélectionnés pour le 95 pour être sur le village de l'artisanat au MIF. Et cette année, j'étais sélectionnée par l'Île-de-France.
Ah, c'est encore mieux. Bon, bravo. Que des lauréats.
Donc,
ce matin.
Petit à petit. Hein.
Cyril, j'espère que vous êtes lauréat quelque part. Sinon, ça va pas le faire. Valérie, quelle est l'étape la plus gratifiante ou peut-être la plus surprenante dans la création de vos pièces?
La plus gratifiante, c'est quand un client vous fait un retour et qu'il est content de, des produits que, qu'il vous a achetés ou que vous avez créés, parce que je fais aussi du sur-mesure.
Oui.
C'est bah, typiquement cette année, c'est au MIF, voir les gens qui m'avaient découvert l'année d'avant sur le village de l'artisanat, qui sont revenus sur mon stand, alors certains pour acheter à nouveau et d'autres juste pour me dire bonjour et me faire un retour sur mes produits.
Ah oui, formidable.
Et là, donc c'est, ça, effectivement, c'est, là, c'est on est gratifiant. Content d'avoir fait ce choix.
Et donc, vos créations s'intègrent, doivent s'intégrer parfaitement dans des intérieurs. Comment vous imaginez leur, leur place dans, dans une maison ou dans un espace public? Est-ce que vous voyez tout de suite le, l'endroit où ça peut...
Alors, les idées fusent dans ma tête.
Oui.
Donc, effectivement, alors, c'est une matière qui est très agréable à travailler, mais aussi qui, qu'on peut utiliser dans plein d'applications. Donc, tous les objets du quotidien qu'on peut avoir, aussi bien dans les pièces de la maison que pour voyager ou autre, donc la bagagerie, ces choses-là, on peut utiliser cette matière qui est très...
Qui n'est pas fragile.
Parce que
quand on voit les objets, on, enfin, moi, le sentiment que j'ai eu, j'ai vu de la fragilité.
Non, pas du
tout.
C'est une matière très résistante. Comme je disais au début, c'est vraiment c'est une véritable alternative au cuir.
Au cuir, oui.
C'est une matière qui est durable, mais qui est effectivement c'est plein d'antagonistes. C'est léger et ça paraît c'est fin, mais c'est
mais en réalité c'est très résistant.
C'est très résistant.
C'est bien
très
de le dire parce que voilà, on quand on voit tout ce que vous faites avec, enfin moi j'ai trouvé que c'était encore une fois incroyable. Donc vos besoins comme Sandra, comme Miguel, c'est avoir plus de visibilité.
Effectivement, avoir plus de visibilité, pouvoir développer le B2B, avoir des clients professionnel, sachant que je veux garder cette part de clients particuliers en direct, parce que c'est important aussi d'avoir, de pouvoir échanger avec eux, de créer des produits qui répondent aux attentes. Mais effectivement, pour que mon activité prospère et se pérennise, il faut que je trouve d'autres canaux de vente que les boutiques artisanales. Il faut que je puisse...
Et ça, c'est compliqué à trouver.
Bah, compliqué dans le sens qu'il faut effectivement du temps pour prospecter.
Ouais, c'est ça, ça vient en plus de tout ce que vous faites déjà.
Ça vient en plus de tout ça. Et puis après, bah, il faut trouver effectivement, c'est une autre organisation. Il va certainement falloir que j'envisage de faire appel à de la sous-traitance pour certaines tâches.
Oui.
Pour pouvoir déléguer une partie, pour dégager plus de temps. Puis effectivement, que ce soit pouvoir faire des prix de vente plus adéquats
bien sûr,
à des partenariats.
Oui, parce que vous devez passer du temps pour faire chaque pièce,
tout
évidemment. En dehors du concept store d'Anguin, où est-ce qu'on peut trouver vos objets?
Alors, il y a une autre boutique d'artisans qui est dans la ville de Troyes, qui s'appelle Cœur Métier d'Art.
D'accord.
Dans laquelle j'expose aussi depuis son ouverture, puisque ce sont d'autres artisans qui ont ouvert cette boutique. Donc ça, Anguin et Troyes, c'est les deux endroits où je suis en permanence. Il y a ma boutique en ligne.
D'accord.
Donc, casaval.fr.
Oui.
Et puis, sinon, bah, des salons et des expos temporaires.
N'arrêtez pas.
Voilà. Surtout sur la période actuelle.
Bien sûr, bien sûr. Vous avez une actualité à annoncer? Un calendrier des participations au salon et expo du moment dans la région, c'est ça?
Oui, bah, écoutez, demain, je ferai une exposition dans un CE.
Oui.
Le week-end qui vient, je serai sur le marché saveur et tradition de Saint-Prix.
Oui.
Et puis, le week-end autour du 15 ans,
oui.
Ce sera le marché artisanal qui est organisé par la Cour des Arts, qui est un lieu à Vauréal où des artisans ont des ateliers hôtes et effectivement ils organisent régulièrement des marchés artisanaux où ils invitent d'autres
artisans ou artisanes.
Voilà.
Et quand vous vous déplacez, vous êtes toujours satisfaite des résultats quand vous allez dans des lieux comme ceci?
Ça dépend, c'est très variable. C'est très variable. Après, c'est, effectivement, on ne peut pas prévoir à l'avance qu'il va y avoir des visiteurs qui vont venir pour acheter nos produits ou juste pour les découvrir. Mais il y a toujours des belles rencontres.
Des belles rencontres.
Et le moyen surtout de faire découvrir ces matériaux qui, comme je l'ai dit, enfin, en France est encore peu connu.
Assez peu connu, oui. Merci infiniment, merci Valérie Ferreira pour ce partage. Moi, je vous dis, ne changez rien à toute votre production qui allie savoir-faire traditionnel et modernité.
Merci
infiniment.
Beaucoup, Jacqueline.
Et on refait une pause, cette fois avec Patrick Bruel, qui a le droit.
On m'avait dit, ne pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment? Qui a le droit? Passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment?
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Reprise de l'économie en direct sur IDFM Radio, avec toujours à mes côtés donc des artisans, artisanes, artistes. Sandra Da Silva, fondatrice de Valoris. Miguel Prieto Verastegui, artiste peintre. Valérie Ferreira, fondatrice de la marque Casaval. Cyril Alouart, c'est ça, fondateur de la savonnerie SAO, Damien Fontaine, artiste en multimédia, et Olivia Zera, directrice de la communication pour la ville d'Enghien-les-Bains. Alors Cyril, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer lorsque je suis allée à la fameuse boutique Concept Store de la CMA. Vous aussi, votre activité aujourd'hui, c'est une reconversion, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Bonjour Jacqueline, merci de me recevoir. Effectivement, avant de commencer mon activité d'artisan créateur en cosmétique naturelle, j'étais responsable de services généraux dans la banque. Donc effectivement, c'est une reconversion qui est partie de loin, mais j'avais vraiment besoin de me reconnecter à l'essentiel.
Donc aussi à la faveur du Covid ou non, pas forcément?
À la faveur d'une envie de changer les choses, de changer de mode de vie, et puis de retrouver de la valeur en fait dans ce que je faisais au quotidien.
Oui, parce que depuis longtemps vous êtes adepte du fait maison en général, et dans une optique de mieux consommer, plus local, plus bio, plus naturel, avec moins de déchets possible, et vous avez commencé à fabriquer vos propres cosmétiques.
Tout à fait, ça a commencé dans mon appartement parisien. Alors évidemment, j'étais pas encore professionnel, mais je fabriquais beaucoup de savons pour moi-même, pour ma famille.
Ça, cosmétiques et produits ménagers, oui.
Produits ménagers, je retrouvais en fait beaucoup de la créativité qu'on peut avoir en cuisine, voilà, et du coup j'aimais faire ça. Bon, aujourd'hui j'ai créé l'entreprise SAO, donc ma savonnerie qui est dans l'Oise. SAO en fait, ça vient du mot savon auquel on a retiré deux lettres, le V et le N, ces deux lettres en fait symbolisant les ingrédients en trop qu'utilise l'industrie cosmétique, et donc du coup on garde les trois lettres du nom de la marque.
Garde l'essentiel.
L'essentiel, voilà, qui montre qu'on peut faire tout aussi bien, mais avec parfois un peu moins.
En restant naturel.
C'est d'autant mieux.
Voilà. Alors la fabrication de savon, c'est un art qui allie chimie et créativité. Comment vous avez pu développer vos recettes, et puis qu'est-ce qui les rend uniques? Parce que j'imagine qu'elles sont uniques.
Alors la particularité de mes savons, c'est qu'ils sont fabriqués à froid. Donc la fabrication à froid, c'est une méthode de fabrication qui est différente de celle de Marseille. Concrètement, on va pas rincer notre pâte à savon, on va nous conserver la glycérine, ce qui fait qu'on aura des savons qui vont être beaucoup plus respectueux de la peau. J'utilise des huiles bio, certaines même issues du commerce équitable, donc le coco, le karité par exemple viennent du commerce équitable, et j'essaie même d'aller plus loin sur la coco, je m'assure qu'il n'y ait pas de maltraitance animale. En fait, on le sait assez peu, mais la coco est parfois récoltée par des singes. Et là, moi, je m'assure auprès de mes fournisseurs que la récolte soit bien humaine et adulte.
Très bien. Donc, quand vous dites votre démarche sans superflu, c'est ce que vous nous disiez, la suppression de la lettre V et N. Le voilà, superflu.
C'est ça, en fait. Oui. Bah, on remarque parfois dans la composition des savons qui sont faits parfois à partir de palmes, parfois aussi avec des tensioactifs de synthèse. Moi, évidemment, je n'utilise pas ce genre de choses-là. Je n'utilise que des ingrédients naturels. Donc, mes savons ont 100% d'ingrédients d'origine naturelle et avec que des huiles bio.
Et alors, je vous pose un petit peu la question que j'ai posée à Valérie. Sandra, Miguel est un petit peu dans un domaine différent, donc je pense que c'est pas tout à fait le même besoin. Mais vous, après, avec le recul, vous êtes content d'avoir choisi cette voie?
Ah, tout à fait, parce que il y a des rencontres incroyables. Ce qui est génial, c'est de pouvoir rencontrer les gens sur les marchés, se rendre compte qu'il y a un véritable besoin en fait et un besoin de retour à l'essentiel. Aujourd'hui, quand on achète un cosmétique, il y a un certain manque de transparence, même si on a la liste des ingrédients, elle est parfois difficile à comprendre. Et le fait que mes clients reviennent et me fassent confiance,
c'est gratifiant, bah, c'est très gratifiant comme on l'a demandé à Valérie. Est-ce que le savon, c'est un produit phare pour les cadeaux de Noël?
Le savon, c'est un produit phare pour les cadeaux de Noël. Là, on est en pleine période. Si vous souhaitez retrouver les savons, vous pouvez les retrouver au Concept Store. C'est vrai qu'il est à Enghien-les-Bains. Voilà. Et puis, alors, je suis pas que à Enghien-les-Bains. Je suis à plusieurs endroits. Il y a beaucoup de marchés de Noël. Le prochain.
Alors, justement, comment trouver vos produits?
Ils sont disponibles sur Internet. Donc, oui. Sur mon site, savonnerie-sao.fr. Et puis, du coup, sur les différents marchés que je fais en Île-de-France, dans l'Oise, dans le Val d'Oise. Là, prochainement, le salon du 6 au 7, ce sera à Deaumont dans le 95.
Très bien. Félicitations, Cyril Lalouarte, et pour cette superbe reconversion. Et puis, votre travail nous rappelle que l'artisanat est avant tout une histoire humaine, faites de passion et de persévérance. Mais c'est une phrase que je pourrais dire à vous tous là, aujourd'hui, parce que je crois que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Merci infiniment.
IDFM Radio, 98 FM.
Et nous enchaînons à présent avec nos deux dernières invitées, Damien Fontaine, metteur en scène de spectacles multimédia, et Olivia Zera, directrice de la communication pour la ville d'Enghien. Bonjour Olivia, bonjour Damien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Damien, vous êtes compositeur et metteur en scène qui avait signé au cours de ces 15 dernières années de nombreux spectacles multimédia en France et à l'international. Merci d'avoir pu répondre à mon invitation. C'est un honneur de vous accueillir chez IDFM Radio. Et merci Olivia Zera d'avoir permis ce rendez-vous à quelques jours des illuminations qui vont une nouvelle fois embellir la ville d'Enghien-les-Bains. Damien, lorsqu'on lit votre biographie, ça a été mon sentiment, on peut penser que vous avez toujours été programmé pour cette carrière artistique. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne trompez pas trop, parce que c'est vrai que même tout petit, j'ai toujours été attiré par des choses assez singulières sur le plan du cinéma, sur le plan du théâtre, sur le plan de la musique, puisque j'ai commencé par ça. Et j'avais été relativement ébloui enfant quand j'avais vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu la chance de grandir dans une famille d'agriculteurs, mais qui était très très ouvert sur des tas de choses. Une grand-mère qui était pour moi quelqu'un qui m'a ouvert, j'irais l'esprit, les oreilles, le regard sur l'opéra par exemple. Oui. Et même le curé de mon village qui a été quelqu'un d'extrêmement polyvalent, puisque c'est quelqu'un qui m'a aussi appris beaucoup de choses sur le plan du théâtre, sur le plan de la musique. C'était un excellent musicien, sur le plan de la rigueur, je crois. Et toutes ces, finalement, je crois que voilà, quand on est en France, ce sont toutes ces rencontres qu'on fait, la chance d'avoir parfois des voisins, des amis qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin que simplement vos rêves, en faisant en sorte que on vous donne des possibilités de par des études, de par
des
rencontres, tout à fait, qui vont nous permettre de mettre à profit ce qu'on a dans la tête, entre guillemets.
Alors, tout se joue dans les années 2000, puisque vous avez une première expérience.
Oui, ça commence effectivement dans les années 2000. C'est là où je me jette un peu à l'eau, parce que j'avais des parents agriculteurs qui étaient un peu inquiets pour mon avenir, en se disant qu'ils voulaient pas forcément avoir un fils saltimbanque. Et ce qui a été quand même assez salvateur de leur part, c'est qu'ils m'ont laissé quand même faire des choses quand je commençais à entrer dans la vie active, plutôt que ce pour quoi j'étais programmé sur le plan des études, parce que j'avais fait des études de scientifiques à côté pour rassurer un peu tout le monde. Mais voilà, on m'a laissé le choix de faire un peu ce que je voulais, ce que j'essayais de mettre en place. Et c'est vrai que voilà, il y a eu plusieurs rencontres. Robert Hossein a fait partie d'une rencontre assez importante puisque c'est quelqu'un qui prenait ses quartiers, je dirais, d'été dans les Vosges. Je l'ai rencontré et c'est quelqu'un qui m'a accompagné sur un des tout premiers spectacles que j'ai fait en me prêtant sa voix, en me parrainant même le spectacle.
Oui, Robert Hossein qui avait aussi le goût des grands
exactement,
spectacles. Hein. Oui,
exactement. Absolument. On a beaucoup échangé d'ailleurs avec lui. Je suis devenu, enfin on est devenu amis avec sa femme également. Et voilà. Et après j'ai eu cette chance aussi de pouvoir participer à la Fête des Lumières de Lyon, qui était une très très belle vitrine pour quand on commence à faire ses premières armes, et de finalement de confronter un petit peu ses idées au grand public, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont assez incroyables chez eux dans leur grenier, mais qui osent pas franchir le pas de montrer des choses à l'extérieur. Il y a toujours cette crainte, ce syndrome de l'imposteur en disant est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je suis légitime, tout à fait. Ouais. Et voilà, on a en tout cas moi j'ai été conforté, si je puis dire, à ce moment-là par un accueil du public qui a été extrêmement chaleureux et qui m'a donné l'envie de continuer, d'essayer toujours de faire plus et de me surpasser. Ouais.
C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes l'artiste fétiche dans Guin-les-Bains pour sublimer les espaces emblématiques de notre ville. Personnellement, je me souviens avec émotion de la première représentation Son et Lumière de l'église Saint-Joseph. Un vrai coup de cœur. Et puis des émotions, je crois, qui réveillent notre âme d'enfant.
Oui, ce qui est très intéressant à travers les spectacles qui sont créés ici à Enghien, c'est qu'on a plusieurs supports et avec le temps, on a toujours fait en sorte que soit réservé sur la mairie un espace, j'allais dire, féerique, le monde des imaginaires, le monde de l'enfance, mais qui parle aussi au plus grand, tout en attirant les plus petits, donc sous forme de contes, et c'est à chaque fois aussi un challenge que de réinventer quelque chose dans ce lieu autour de l'esprit de Noël, parce que c'est quand même une date singulière et particulière, donc faut pas taper à côté, si je puis dire. Et puis cet autre lieu qui est l'église et qui permet d'explorer des univers peut-être un peu plus graphiques, moins figuratifs, mais justement plus abstraits par moment, et on aura l'occasion d'en parler, où les choix cette année ont aussi été justement guidés par ces deux approches, quoi.
Très bien. Alors, vous me tendez une perche parce que vos spectacles mêlent plusieurs médias, son, lumière, vidéo. Comment arrivez-vous à créer précisément une harmonie entre ces éléments pour captiver le public ?
Alors à chaque fois, c'est finalement je pars d'une page blanche, un peu comme un écrivain, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est déjà de raconter une histoire. Alors une histoire qui peut être narrative, on l'a dit pour la mairie, mais qui peut être aussi une histoire simplement à travers des symboles, à travers des thématiques pour ce qui est de l'église. Mais ça veut pas dire que on aujourd'hui ce type de spectacle de projection est quelque chose qui est relativement entre guillemets courant. Les gens en ont vu et vu,
oui,
et c'est normal. C'est assez démocratisé. C'est un peu. Je compare souvent ça au cinéma des premiers temps, lorsque le cinéma est né. On pouvait entre guillemets épater le public simplement avec une image assez incroyable lorsque les frères Lumière font cette sortie des usines de la Ciotat, les gens sont émerveillés de voir ces images incroyables, et puis après on a été obligé d'avoir une grammaire qui puisse coller à ce nouveau média. Du cinéma muet on est passé au cinéma parlant, les effets spéciaux sont arrivés, et ainsi de suite, etc. Aujourd'hui je crois qu'il ne viendrait pas l'idée à un spectateur quelconque pour le cinéma d'aller voir un film uniquement parce qu'il y aura de jolis effets spéciaux. Pour eux, et c'est normal, il faut qu'il y ait une histoire et les effets spéciaux doivent être réussis. Et ben, c'est un peu le même cas dans tout ce qui est projection. Ici, on dépasse largement le cadre de la technique. La technique doit être là, doit être au rendez-vous. Par contre, il faut que l'on touche le cœur des gens, que l'on touche leur sensibilité à travers le spectacle, à travers l'émotion que va dégager le spectacle. Et que ce soit, je disais, sur cette mairie où on a cette dimension conte qui s'adresse aux plus petits comme aux plus grands, il faut que ce spectacle, pendant 13-15 minutes, nous emporte justement dans cet imaginaire utopique et puis voilà, nous fasse un petit peu oublier, surtout cette période de fin d'année, nous fasse oublier des choses un peu de la vie quotidienne pour nous embarquer dans d'autres ailleurs. Mmh.
Donc, on l'a compris, la technologie occupe une grande place dans vos œuvres. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de techniques ou d'outils innovants ?
Oui, j'essaye en tout cas de me tenir au fait de tout ce qui se passe. J'ai évidemment, en dehors de ce que je présente en lien, des créations qui tournent un peu partout, qui sont de plus en plus des créations immersives en intérieur aussi. Quelque chose que j'ai exploré depuis un certain nombre d'années, intérieur d'église, beaucoup. Ce sont des lieux qui bénéficient déjà d'une architecture assez incroyable et qui permettent d'explorer des volumes à 360 degrés comme on peut rarement le faire ailleurs, et puis de le faire aussi avec l'intégration de soit de performeurs, soit de figurants, soit d'acteurs, soit un peu de tout ça dans des formats, puisqu'on parlait cinéma, dans des formats long métrage d'une heure et demie. Donc on est sur un autre sur une autre approche. Et alors il y a des églises, mais il y a par exemple un spectacle que j'ai fait cet été dans une piscine art déco. Finalement, on avait décidé de vider la piscine et d'installer les gens dans le grand bassin. Alors pour un grand bain, exactement. Et on avait reconstruit une scène avec des artistes, une scène aquatique, et tout le spectacle se passait à la fois dans le bassin et bien sûr dans tout le décor de la piscine, qui était assez vertigineux parce que c'est pas du tout une piscine traditionnelle, comme il y en a certaines à Paris de cette époque. Donc c'est vraiment des choix qui peuvent guider des concepts, des choix de lieux qui peuvent guider des concepts, ou des choix, je dirais, personnels, qui vont faire que tel ou tel lieu va être recherché pour pouvoir accueillir telle ou telle forme de spectacle.
Alors, quand on assiste à ces illuminations, telles qu'on les connaît à Enghien-les-Bains, il y a probablement des défis techniques ou logistiques que vous rencontrez. Oui, les rencontrez-vous? Et si oui, comment les relevez-vous?
Alors déjà, on a la chance à Enghien d'avoir quand même une équipe présente depuis le début, des gens de la ville qui sont quand même des spécialistes en la matière, qui sont épaulés par des équipes techniques, des prestataires techniques d'ailleurs, mais qui font que depuis que j'ai la chance d'être présent ici, on a réussi à créer une belle synergie, je crois, entre l'optimisation d'un côté technique et de l'autre l'optimisation de ce que l'on peut attendre des projections qu'on va réaliser. Donc on a vraiment travaillé.
Vous arrivez assez serein finalement à Enghien.
Oui, non, j'arrive pas trop stressé quand même. Mais alors il y a toujours évidemment l'attente de la réaction du public. Comment les gens vont le percevoir? Et c'est normal. D'année en année, l'exigence va plutôt en augmentant. Donc les gens n'ont plus l'effet de surprise des premières éditions. Donc il faut à chaque fois réinventer. Mais c'est ce que je disais pour le cinéma, c'est-à-dire qu'on n'a plus la surprise de voir une image projetée. Bon, bah elle est projetée, ça fait presque partie maintenant des choses que l'on connaît. Ce qui va être, par contre, ce qui doit être inventif, c'est ce qu'on met à l'intérieur.
Oui, c'est ça. Et combien de temps faut-il pour mettre au point un projet tel que celui d'Enghien-les-Bains?
Ah, il faut 4 à 5 mois, c'est-à-dire qu'il y a une phase, je dirais, de gestation ou de conception, ce que j'expliquais tout à l'heure, où l'histoire commence à prendre vie sur le papier. Et puis après, c'est un peu... toujours pareil, comme pour le cinéma, il y a un storyboard qui est créé, il y a toutes les tranches, finalement, toutes les étapes du spectacle qui sont dessinées ou qui sont explicitées. Puis il y a l'ensemble des graphistes qui travaillent avec moi, qui sont quand même au nombre d'une quinzaine, qui ont chacun des domaines de compétences, comme pour un film d'animation, en fait. Donc, qui vont, pour certains, travailler uniquement sur des personnages, en l'occurrence sur la mairie, des personnages en 3D et qui vont être animés, d'autres qui vont créer les décors, d'autres qui vont créer des effets liés à l'architecture, d'autres qui vont amener simplement des matières, d'autres qui vont monter, parce que comme pour un film, une fois qu'on a tourné le film, bah, il y a juste deux, trois personnes, mais qui sont essentielles, qui peuvent vous faire en sorte que le film va être complètement raté parce que le montage va pas être bon. Il y a des comédiens. Puisque en particulier bien sûr sur la mairie il y a des personnages
donc
il y a des
voix,
voilà des comédiens qui prêtent leur voix qui sont des comédiens de doublage très connus hein, qui avec qui je travaille sur Paris et puis oui toute l'équipe on va dire autour je le disais entre cette corrélation qui est faite entre les équipes techniques et de la ville et du prestataire vidéo et mes équipes pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien et en bonne alchimie.
Damien, une dernière question. Malgré toutes vos réalisations, y a-t-il un projet rêve ?
Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est bien, alors.
Oui. En tout cas, j'ai toujours dit que le jour où j'aurai plus de rêves et d'envie et d'idées, plus d'inspiration, je crois qu'il faut s'arrêter ou il faut faire autre chose. Non, il y a énormément de projets. J'ai là, dans les prochains mois, un certain nombre d'actualités dans des églises, alors en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, qui sont en train de se programmer. Je sais qu'il y a un certain nombre de lieux en intérieur ou en extérieur qui moi me font rêver. Je pense par exemple à l'île de Pâques qui est un lieu incroyable où j'aimerais beaucoup aller. Le problème c'est que je sais pas si je pourrais avoir beaucoup de spectateurs. Bon, alors, donc c'est économiquement parlant, c'est peut-être pas très viable.
Peut-être pas, oui, c'est pas le bon plan.
Voilà.
Après, peut-être pour vous faire plaisir, tout simplement, être dans ce...
Oui,
dans
après, il pourrait peut-être y avoir un généreux mécène qui a envie de faire un truc, une expérience assez incroyable et de faire le premier concert, spectacle sur l'île de Pâques pour les quelques autochtones qui peut encore y avoir. Et puis, mais surtout pour une... Voilà, pour raconter là aussi quelque chose. Le fait de faire pour faire m'intéresse pas. Le fait d'y aller, ça serait sur cet endroit particulier.
Il y a un fil conducteur.
Voilà, imaginez vraiment quelque chose qui ne puisse pas être fait ailleurs. Souvent, ce que je dis, quand on est sur ce type de spectacle très insolite dans des lieux comme celui qu'on évoquait là, c'est donner à voir, donner à vivre ce qui n'aurait jamais pu être vu nulle part ailleurs. Quoi,
par finalement. Ailleurs, oui, je comprends. Bah, écoutez, vous avez exprimé votre vœu, peut-être qu'un généreux
Exactement,
mécène
voilà.
nous écoute et va se précipiter pour financer. Merci Damien Fontaine.
Merci Jacqueline, merci beaucoup.
Pour ce partage. Olivia, vous avez aujourd'hui la lourde tâche de valider la nouvelle saison. Lorsqu'il faut choisir comme ça d'une année à l'autre, alors on a compris qu'il y avait des étapes hein, avec Damien. Vous suivez ces étapes également ?
Oui, absolument. En fait, ça se fait en plusieurs temps. Il y a beaucoup d'échanges avec Damien. On communique beaucoup tous les deux.
C'est ça, vous ne découvrez pas comme ça aujourd'hui
Non. Alors après, je laisse quand même la magie opérer. C'est-à-dire que j'aime bien découvrir les images. Je veux pas que Damien me déflore tout.
Oui. Pour avoir le coup de cœur.
Voilà. Mais en revanche, on a beaucoup, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions afin qu'on trouve la chose qui correspond le mieux à nos attentes. Et à chaque fois, on est ravis et on est même émerveillés par rapport aux propositions que peut nous faire Damien. À chaque fois. Mais c'est un travail vraiment, comme l'a dit Damien, une très bonne synergie entre la ville et Damien et ses équipes, que ce soit bien au niveau technique, au niveau de la création même, on est vraiment très très en phase, chacun de notre côté.
Très bien, bah écoutez, un immense merci Damien Fontaine hein, d'avoir pu partager avec nos auditrices et auditeurs votre univers artistique aussi riche que fascinant. C'est une vraie joie d'avoir pu vous recevoir et puis on a hâte de découvrir les prochaines illuminations de Noël dont je rappelle que le lancement aura lieu ce vendredi 5 décembre.
Absolument, à 18h. Façade de l'église en premier lieu, suivi ensuite sur la façade de la mairie, et ce sera suivi d'un petit verre de l'amitié tous ensemble sur le parvis de la mairie pour revoir et revoir encore les projections de Damien.
Très bien, merci beaucoup. Et puis vous, Olivia, merci, Olivia Zera, merci infiniment. Encore une fois, d'avoir pu rendre possible cette rencontre. Votre présence nous touche vraiment ici.
Merci beaucoup, Jacqueline. C'est réciproque. Merci beaucoup de votre accueil.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est bientôt la fin de notre émission. Et il y a une petite tradition dans cette émission, c'est que je redonne la parole à chacun de mes invités pour un mot de conclusion. Donc on va peut-être recommencer dans l'ordre. Sandra, je vous redonne la parole.
Oui, très bien. Alors d'abord, merci beaucoup Jacqueline de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis vraiment ravie, c'est ma première fois.
Et ben, il faudra revenir.
Oui, très bien. Alors, petit mot de la fin. Nous sommes à quelques semaines de Noël, donc j'ai envie de dire pensez responsable, achetez responsable. Surtout pour les enfants, que ce soit ma marque ou une autre, mais voilà, pensez à eux.
Gardez en tête cette idée d'acheter responsable.
Tout à fait. Et puis pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par ma marque, on la trouve sur Cultura, la marketplace. Donc voilà.
Donc des informations qui se retrouveront sur le podcast. Merci infiniment,
merci
Sandra
Jacqueline.
Da Silva. Et puis on croise les doigts pour le 9 décembre. Merci. Miguel, un mot de conclusion.
Oui, merci Jacqueline de l'invitation. Et là, on est en pleine période de Noël justement, et j'ai déjà quelques commandes pour des cartes de vœux. Je fais un appel aux chefs d'entreprise, aux entreprises, aux institutionnels, et s'ils veulent bien avoir une jolie carte de vœux artistique signée par l'artiste, c'est le moment.
Et original.
Oui, là, c'était depuis 2 ans, je fais ces produits adaptés et personnalisés pour chaque commande, avec des logos, sont les logos, je peux tout personnaliser, et aussi, comme je vous disais, j'attends les salons des artistes français, j'attends revenir à l'international après un passage des expos à Monaco et à Milan. Et je pense que c'est faire connaître et aller au-delà des frontières, c'est un grand défi, mais il faut y aller en tout cas.
Il faut y aller. Comme Damien Fontaine, vous êtes un artiste international. Merci,
merci
Miguel.
Merci beaucoup.
Valérie, c'est à votre tour de nous donner un petit mot de conclusion.
Écoutez, tout d'abord, merci de nous avoir tous reçus. Ça a été vraiment un plaisir de découvrir les activités des uns et des autres. Je dirais aux auditeurs, écoutez, n'hésitez pas à consommer plus local, artisanal. Enfin, effectivement, ça sert un coup, mais c'est le coup de la qualité, du maintien des compétences sur nos territoires.
Des artistes et puis aussi de la préservation de la planète.
Exactement. Hein.
C'est très, très important, ça. Donc, merci Valérie. Aussi, beaucoup de succès pour vos ventes à venir. Cyril, le mot de la fin est pour vous.
Merci beaucoup, Jacqueline, de nous avoir reçus. Moi, j'aurais à peu près la même pensée que mes collègues. Enfin, ne cédez pas aux sirènes de la grande consommation pour les fêtes de fin d'année. Faites confiance à vos artisans locaux et au savoir-faire local.
Très bien. Merci et merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que pour trouver tous vos trésors, il faut prendre la peine d'aller sur vos sites respectifs et puis voir là où vous allez distribuer vos objets. Donc merci infiniment à tous et à toutes. À bientôt. Merci. Voilà, notre émission est terminée. Merci pour tous ces partages riches et inspirants. Donc, je remercie Francky et Christophe pour la technique. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-la en podcast sur le portail de la radio 98.fr. Belle journée, belle semaine. À vendredi pour un nouveau numéro de l'économie en direct, le matin et en début de soirée pour le lancement des illuminations. À bientôt.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect.
Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Même si j'en ai pas. je le tends. Sobre el color del mar estoy. Sobre el color del mar desapareciendo. Coulis de roulis pour le vieux eau. Sur l'écume ça glisse drôle. Éponge, pédalo. Même si je n'ai pas l'air sur le dos. Sous les lignes de flottaison. Sobre el color del mar. Sobre el color del mar. Sobre el color del mar estoy. Sobre el color del mar que zapa.
De plus, je rentre chez moi, j'ai confié mon cœur à un garçon. Une fois de plus, je comprends pas, j'empile des je t'aime dans des cartons. Je suis toujours trop ou pas assez, j'en ai laissé des larmes sur l'oreiller. Les yeux ouverts, même dans le noir, personne à côté, sale mood ce soir. Je suis comme toutes les filles, tu sais j'ai plus le temps. J'ai passé ma vie pour quelqu'un qui m'oublie, pour quelqu'un qui me ment. Je suis comme toutes les filles, j'aimerais de temps en temps un thé bas le matin. Oh, je t'aime quand je me plains, pas qu'à travers l'écran. Je suis celle qui passe, qu'on remplace, celle qu'on largue derrière un clavier. Par message, sans courage, t'as pris mon cœur et puis tu t'es paré. Je suis pas la seule dans tes messages. Je suis pas la seule à qui tu dis oui. Vas-y dégage, je me choisis. Je suis pas là pour faire joli, juste pour être jolie. Je suis comme toutes les filles. Tu sais j'ai plus le temps. Qui fait passer ma vie. J'ai peur de me planter, voir la même histoire recommencer. Plus fort que les sourires et les trahisons. Je suis là, plus forte que jamais. Je suis comme toutes les filles. Tu sais, j'ai plus le temps. Qui s'est passé ma vie pour quelqu'un qui m'oublie. comme toutes les filles.
Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne. Oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime.